Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Jérémy Besset.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Lillehammer en Norvège. Nous sommes en effet à 2 heures au nord d'Oslo, dans cette petite et ravissante ville accrochée à la montagne et bordée par un lac, où se déroule actuellement le Norsk Literature Festival, la manifestation littéraire la plus importante des pays scandinaves et dont cette année les écrivains d'expression française sont invités d'honneur, parmi lesquels Leïla Slimani, Maëlys de Kerangal, Kamel Daoud, Jacques Roubaud, Nicolas Mathieu, entre autres. Et pour commencer, la romancière française qui est à nos côtés aujourd'hui, Alice Zeniter. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de cette prestigieuse délégation d'auteurs puisque votre 4e roman, le plus récent, donc L'art de perdre, est traduit ici en Norvège par les éditions Aschehoug, l'une des 3 plus importantes maisons du pays et l'une des plus anciennes puisqu'elle a été créée en 1872. Et nous sommes en compagnie du responsable de la littérature étrangère de Aschehoug, le plus francophile, le plus francophone des éditeurs norvégiens sans aucun doute, Asbjørn Øverås. Bonjour.
Bonjour, merci.
Merci à vous deux de participer à ce dialogue transversal qui, à l'heure des élections européennes d'ailleurs, rappelle à quel point est important ce lien entre les différentes cultures, que c'est essentiel et que la littérature, sans aucun doute, est une passerelle heureuse d'un pays à l'autre sans avoir besoin de se déplacer. D'ailleurs, est-ce que vous vous étiez déjà rencontrés l'un et l'autre, Alice Zeniter?
Oui, on s'est rencontrés au début du mois de mars, quand je suis venue pour présenter le livre à la Maison de la Littérature à Oslo.
Donc pour vous, c'est une belle révélation que d'être traduite en Norvège?
C'est quelque chose de très étonnant. Alors d'abord, être traduite dans une langue que je comprends absolument pas et que je peine à prononcer, c'est toujours quelque chose d'étrange. Et puis aussi, être traduite pour ce livre-là dans un pays qui connaît très mal l'histoire qui lie la France et l'Algérie, ça fait des choses très belles, puisque quand je suis venue donc au début du mois de mars, j'ai vécu ce traitement de rockstar où la Maison de la Littérature avait invité Benjamin Stora pour faire la première partie. En se disant que pour un public norvégien, il fallait peut-être replacer le livre dans un contexte historique et Stora était absolument fabuleux. En fait, pendant 1 heure, sans notes, il a parlé de l'histoire franco-algérienne et de la manière dont elle marquait encore aujourd'hui la vie politique française. Avec Asbjørn, on écoutait comme des enfants. Et puis, une fois ce cadre posé, on a parlé du livre. Et c'est une chance incroyable pour moi de vivre une soirée comme celle-là.
Alors, effectivement, on va reparler de l'histoire du livre dans quelques instants parce que c'est très important. Mais je voudrais savoir pour commencer, Asbjørn, comment est-ce que vous avez découvert Alice Zeniter? Parce que c'est vrai qu'elle avait déjà publié 3 romans auparavant. Il se trouve également que L'art de perdre a eu un grand succès auprès du public français lors de sa sortie en 2017, qu'il a eu 3 prix majeurs. Le prix des librairies de Nancy, le prix Goncourt des lycéens, le prix du journal Le Monde. Est-ce que c'est par ce retentissement que vous aviez repéré Alice Zeniter?
Non, c'est étonnant parce qu'on découvre des livres de façon assez étonnante des fois, et cette fois-ci c'était assez simple. C'est la responsable des droits étrangers, Florence Giry, chez Flammarion, que je connais bien et qui m'a téléphoné un jour et elle m'a dit, Asbjørn, cette fois-ci, elle m'a peut-être pas dit, il faut m'écouter, mais pas loin de là, elle a dit, cette fois-ci, j'ai un livre, il faut que tu le lis, c'est important pour ses qualités strictement littéraires. C'est pas que Alice Zeniter était inconnue pour moi, mais il y a énormément de romans français. Nous publions un nombre restreint de livres traduits et du monde entier, ça veut dire que il y a quand même beaucoup de livres qu'on peut pas faire. Mais là, je connaissais déjà son nom, j'avais lu des critiques d'autres livres avant, mais c'est aussi le thème, on y reviendra.
Exactement. Est-ce que vous avez senti, Alice Zeniter, quand vous avez appris, entre autres, que vous alliez être traduite en norvégien, que avec ce livre, vous aviez passé un palier, qu'il vous avait ouvert encore plus d'horizons géographiques?
En fait, c'était très étrange pour moi l'histoire de ce livre. C'est-à-dire que Florence Giry, dont Asbjørn vient de parler, m'avait dit à quel point elle avait aimé le livre et à quel point elle allait essayer de le faire connaître, de le vendre, et tout en me disant, mais l'histoire, j'ai quand même peur qu'elle soit très franco-française. Il va falloir que je lutte contre cette peur-là chez les éditeurs étrangers. Et en fait, elle a été si enthousiaste qu'avant même que le livre soit sorti en France, il y avait déjà eu des achats à l'étranger. Et ce que j'ai trouvé très bouleversant, c'était de voir, en fait, à quel point cette histoire-là faisait écho aux propres histoires d'immigration, de déplacement, de transmission des éditeurs étrangers qui l'achetaient, et donc voilà, qui me disaient, bah, pour nous, ce sont ces pays-là, pour nous. Et d'ailleurs, Asbjørn, toi, tu me parlais dès que je suis arrivée du travail d'une de tes amies sur les immigrés pakistanais, qui est pas du tout donc le pays dont je parle, puisqu'a priori je parle de l'Algérie, mais de voir qu'il y a des schémas en fait qui se reproduisent dans qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire migratoire, qu'est-ce que ça veut dire en termes de transmission, et que si on accepte de faire le déplacement géographique, en fait, cette histoire peut parler à des éditeurs de pays qu'on aurait soupçonné au départ indifférents à la question franco-algérienne.
Alors, si vous voulez bien, je vais rappeler en quelques mots, effectivement, le sujet de L'Art de perdre, puisque c'est un roman familial, une fresque sur trois générations qui prend sa source en Algérie avec un grand-père kabyle, obligé en 1962 de quitter son pays avec sa famille pour s'installer en France où grandiront ses enfants, dont Hamid, qui plus tard aura une fille, Naïma, laquelle, devenue galeriste d'art, sera amenée pour son travail à aller sur la terre de ses ancêtres qu'elle ne connaît pas et se réapproprier tout un pan de la mémoire familiale qui avait été passée sous silence. Alors c'est vrai que c'est un très beau livre que chacun et chacune lit à l'aune de sa sensibilité, de son histoire personnelle, de sa culture. Et vous, Asbjørn, tout de suite, vous avez été convaincu en effet que traduire ce livre en norvégien allait toucher donc le public norvégien.
Je ne sais pas, il y a deux niveaux, parce qu'il y avait un niveau personnel, parce que je suis arrivé à Paris pour quelques années avec mes parents en 1960, et la guerre d'Algérie était un peu la guerre du Vietnam de mes parents. Mmh. Ça a été très important dans la famille, ça veut dire que l'Algérie m'a toujours fasciné. Et l'histoire des Harkis, je la connaissais un peu, bien sûr, mais je la connaissais pas bien, et ça m'a fasciné personnellement de lire le livre d'Alice. Mais d'un autre côté, moi je crois que j'ai vu tout de suite cet autre niveau. Et c'est vrai que j'ai une amie qui est sociologue, qui avait fait une thèse dans les années 70 sur les jeunes Pakistanais qui arrivaient pour la première fois en Norvège. Cette thèse n'a pas été publiée à ce moment-là, mais elle a été publiée il y a un an. Et là, il y avait des jeunes Pakistanaises d'aujourd'hui, troisième génération, qui venaient la voir parce qu'ils avaient vu des photos de leur grand-père dans le livre. Ils savaient rien. Ils connaissaient pas leur histoire. D'ailleurs, j'ai amené cette sociologue écouter et elle a été très fascinée aussi. Et c'est bien sûr que c'est une histoire qu'on peut reproduire ailleurs et que c'est une histoire de mémoire qui est différente. Et il y a tellement de choses qui sont très intéressantes. Le fait que ce personnage retourne en Algérie et peut-être comprend qu'elle n'a pas besoin des racines de la famille, mais qu'elle peut se créer ses propres racines dans ce pays déjà. C'est quelque chose qui pour moi était très important en lisant le livre.
Et en même temps, en plus, il y a eu l'actualité récente en Algérie qui sans doute est parvenue par les informations générales dans de nombreux pays et qui a donné... Non ? Vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
J'aurais bien voulu être d'accord, mais justement, c'est ça le problème un peu, c'est que l'Algérie n'a pas une grande place dans les nouvelles norvégiennes à la radio. On entend parler de ce qui se passe en Algérie, des manifestations, etc. Mais c'est comme Alice Zaniter disait au début, ça ne fait pas partie de notre histoire. L'Algérie et l'Algérie française et tout ce qui s'est passé après, c'est pas plus important que la plupart des autres pays colonisés et qui se sont libérés de différentes façons.
En tout cas, par la littérature et par le livre d'Alice Zeniter, désormais, le lecteur norvégien en saura plus sur cette histoire algérienne et ses relations avec la France. Alors, vous sortez à peine, je crois, Alice Zeniter, d'une rencontre, justement, dans le cadre de ce festival à Lillehammer. Vous étiez avec deux auteurs, un débat sous le titre « Littérature et relations humaines ». C'est un peu vague, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais est-ce que vous avez aussi eu le temps d'échanger avec vos premiers lecteurs, vos premières lectrices ou des gens qui ont assisté au débat et qui se sont sentis concernés par ce que vous aviez pu dire ?
Alors non, et j'ai cru remarquer, mais Asbjørn, corrige-moi si je fais une généralité sur la base de deux expériences, mais qu'il y a moins souvent de toute façon en Norvège qu'en France un moment de débat avec la salle. C'est-à-dire à la maison de la littérature, il n'y a pas eu de questions du public, et là il n'y en avait pas non plus. Il n'y avait pas non plus de temps de signature ici, donc c'était vraiment voilà, on est sorti de scène et puis on est venu faire cette interview. Donc
culturellement en Norvège, on ne va pas forcément vers les écrivains après une rencontre publique.
Pour les signatures, c'est une autre culture. Ça veut dire que moi, je n'oserais pas amener à les sanitaires dans une librairie pour faire signer des livres.
Ah, mais pourquoi expliquer ça?
Parce que c'est très, très rare que les gens viennent pour faire signer un livre.
Parce qu'on
n'a pas ce même intérêt pour les livres signés. Je veux dire, c'est peut-être étonnant pour les Français, mais en Norvège, ça n'a pas. J'étais au Quai du Polar,
à Lyon,
il y a pas très longtemps, où il y avait, 100 personnes devant un auteur pour signer un livre. Ça, on le voit très rarement en Norvège.
Il n'y a pas de contact direct.
Non, mais ça, là, c'est pas une question de contact, c'est juste la question d'avoir une signature.
La signature.
Oui, peut-être, oui, justement. C'est une autre culture.
Mais sans parler de la signature, il peut quand même y avoir des échanges avec ses lecteurs.
Mais il y en a de temps en temps aussi. C'est pas généralisé. Je pense que là, on a eu cette expérience deux fois de suite, mais je pense que il arrive quand même aussi assez souvent d'avoir des questions après.
En tout cas, ce que je remarque dans le choix des programmateurs ici du festival, qui ont donc invité Alice Zeniter, mais également Leïla Slimani, Kamel Daoud, Boualem Sansal, on constate un tropisme pour la littérature qui parle du Sud, du Maroc, de l'Algérie, mais est aussi présente Werwer Likinepo, qui est cette écrivaine et artiste camerounaise. Est-ce que selon vous, Asbjørn, il y a une raison à cet intérêt pour cette région du monde, ou c'est lié à des qualités d'écriture, ou ce sont des coïncidences de cette année?
Je crois déjà qu'ils ont voulu des auteurs de la francophonie, dans un certain sens. Ça veut dire qu'ils voulaient des auteurs qui écrivaient en français de pays différents. Et il y a quand même aussi Mathieu, il y a Kerangal, devait y avoir Édouard Louis, Héribon. Mais on s'intéresse à la littérature française écrite dans d'autres pays aussi. Et c'est peut-être aussi parce que c'est une expérience de langue qu'on n'a pas en Norvège nécessairement. Je veux dire, en Norvège, les Norvégiens écrivent en norvégien et ils vivent en Norvège. En Angleterre et en France, vous avez une expérience de la langue et comment on s'approche de la langue, qui est très différente. Parce qu'un auteur libanais écrivant en français ou camerounaise écrit nécessairement un français qui est inspiré aussi par l'endroit où elle a vécu ou grandi.
Oui, c'est une langue qui traverse les 5 continents.
Oui, bien sûr.
Ce que la Norvège ne connaît pas comme expérience.
Non, pas du tout.
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de Littérature sans frontières pour une émission spéciale aujourd'hui en Norvège à l'occasion du Festival de littérature qui se déroule actuellement à Lillehammer où nous sommes en compagnie d'une des invitées de cette édition où la littérature française est à l'honneur, la romancière Alice Zeniter dont le livre L'art de perdre a été traduit en norvégien aux éditions Huskehøg. Grâce au responsable de littérature étrangère de cette maison, Asbjørn Øverås.
Littérature sans frontières sur RFI.
Et c'est un festival, on le voit par sa programmation qui s'étend donc sur plusieurs jours, qui à travers la littérature mais aussi le cinéma, puisqu'il y a des projections de films français, la musique, la traduction et d'autres rencontres transversales visent à rapprocher nos deux cultures qui ne se connaissent peut-être pas si bien que cela. D'ailleurs, je me posais cette question à Lise Nitter. Vous la connaissez, la littérature norvégienne? Vous en lisez, la littérature contemporaine?
Alors, très peu.
C'est pas un piège, hein.
À l'exception, et je ne vais pas réussir à prononcer son nom, Asbjørn, est-ce que tu peux le dire à ma place, celui qui a écrit Mon combat?
Knausgård. Karl Ove Knausgård.
Cet écrivain qui publie un roman autobiographique en 6 volumes.
Voilà, que moi je connaissais, mais alors qui a très peu marché en France, que moi j'ai découvert en Angleterre et en Irlande, où la traduction anglaise marchait pour le coup du feu de Dieu. Enfin, ce type était une rockstar de la littérature, on se précipitait sur les parutions de nouveaux volumes. Ça a fait un peu un pétard mouillé en France.
Il y a une presse importante,
oui.
Mais en termes de vente, effectivement, je suis pas sûre que le public ait suivi.
Non, et j'ai
de très mauvaises critiques, partiellement, en France.
Vous suivez, vous, la critique française?
Ça m'arrive, quand je connais l'auteur.
Pardon, Alice Nitter, on vous a interrompu. Donc ça, c'est un auteur que vous avez découvert, mais du coup, en traduction anglaise?
Oui.
Que vous avez lu en anglais?
Oui. Oui, mais j'aime bien ces rencontres comme ça. Disons que quand de toute façon, je sais que je ne peux pas le lire dans la langue originale, j'aime bien cette idée que le livre que je vais lire, et du coup la langue dans laquelle je vais lire le livre, porte aussi le souvenir du paysage littéraire dans lequel il s'est inscrit, de la découverte, de par quel moyen le livre est arrivé jusqu'à moi.
Mais néanmoins, c'est vrai que, à part cet auteur dont vient de parler Alice Nitter, et moi non plus, je ne me tenterai pas à la prononciation.
Et oui, plus personne n'ose maintenant. Hein.
Il y a Jonas Bø, qui a un franc succès en France, cet auteur de romans policiers, qui est traduit à la série noire, et en plus dont on a pu suivre la série Occupied, une série télévisée qu'il avait co-signée. Et on sent qu'il y a aussi peut-être plus de livres français qui sont traduits en norvégien que l'inverse. Et là, ce sont les chiffres qui parlent. En 2017, environ 70 titres français ont été achetés par des éditeurs norvégiens, et en revanche, plutôt 25 titres norvégiens par an sont traduits en France. Et parmi ces 70 titres, d'ailleurs, une place prépondérante pour la bande dessinée, et je crois d'ailleurs que Guy Delisle, qui est cet auteur de bande dessinée français, est assez connu ici en Norvège. Vous le confirmez ?
Oui, assez. C'est encore toute une histoire, l'histoire de la BD en Norvège. C'est moi qui ai publié Guy Delisle, déjà. Mais on est dans une situation très différente de la France. On lit pas autant de BD en général en Norvège. Dans mon milieu, parmi les éditeurs norvégiens, il y en a très peu qui lisent la BD. Il y a un segment pour lire de la BD et un segment pour la littérature. Moi, je dis toujours à mes collègues norvégiens qu'en France, ça serait tout à fait naturel de lire Proust un jour et de lire Tardy le jour suivant. Et ça, c'est pas tout à fait ordinaire en Norvège.
Vous dites donc qu'il y a des classifications de genres littéraires, avec certains qui sont considérés plus comme mineurs et d'autres majeurs.
Oui, je pense aussi que d'ailleurs le polar français a même eu un effet positif par rapport à la littérature française, parce qu'on a vendu plus de polar français ces dernières années. Et le bureau des légendes à la télé, on en avait parlé, le fait qu'il y ait beaucoup de gens pour suivre le bureau des légendes, qui a eu un succès énorme dans certains milieux norvégiens, je crois que ça participe à une idée que la littérature française n'est pas ce que l'on croyait qu'elle était. C'était du très littéraire ou du très introverti. On en est presque un peu resté au nouveau roman. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et pour moi, c'est positif que les gens lisent des polars français.
Bien sûr.
Parce que ça leur donne une autre idée de ce que peut être la littérature française.
À cet égard, je crois que vous avez était l'un des premiers à traduire l'œuvre de Pierre Lemaitre, à l'époque où il ne publiait que des polars, avant qu'il ait cette autre vie, grâce à son prix Goncourt pour Au revoir là-haut en 2013. Mais dès le début, vous l'aviez suivi, vous aviez senti que c'était un écrivain dont l'univers pouvait effectivement plaire en Norvège.
Oui, mais on a publié des auteurs de polars très différents. On a publié Caril Ferret, on a publié Fred Vargas, Hervé Lecor, Bernard Minier. Donc, c'est des auteurs, mais très, très différents. Ça montre un peu l'idée du polar en France, qui peut être quelque chose de très différent. Et pour Pierre Lemaitre, on a commencé à dire en Norvège que le polar français, c'était le nouveau scandinave.
Alors qu'il y a eu une vague justement de polar nordique qui a déferlé sur la France et sur l'Europe.
Qui est très dangereux d'ailleurs pour une maison d'édition qui publie UNESP et qui vit plus ou moins de ça.
Des auteurs très différents auxquels il faut rajouter Maïlys de Kerangal par exemple, qui est donc ici avec nous à Lillehammer. De fait, Asbjørn, quels sont vos critères ? Je crois comprendre qu'il faut que les livres vous touchent déjà personnellement, mais plus exactement, comment est-ce qu'on choisit un auteur français plus qu'un autre ?
Déjà, il faut que ça me touche, moi, je pense. Parce qu'il faut, pour se battre pour un livre, il faut déjà que ça vous touche. Maintenant, Alice Néter m'a dit tout à l'heure que j'étais devenu un éditeur d'auteur de transfuges de classe.
Parce que donc Asbjørn a publié Édouard Louis, Éric Bon, moi, c'est lui qui m'a fait découvrir le livre de Pontus à la ligne. En fait, quand
je suis allée
en mars à Oslo, Asbjørn m'a dit je viens d'acheter les droits de ce livre, il est absolument extraordinaire, il faut que tu rentres et que tu lis ça. Et c'est vrai que c'est un livre absolument extraordinaire. J'aime bien l'idée qu'il ait fallu que j'aille manger des sushis à Oslo avec mon éditeur norvégien pour rentrer et acheter à la ligne.
Découvrir un auteur français, donc.
Voilà. Et puis, Asbjørn, comme moi, on a beaucoup, beaucoup aimé Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, que Asbjørn avait voulu acheter aussi, et donc bien avant le Goncourt. Et là, je lui disais, mais tout ce qui relie ces livres-là, c'est de la littérature de transfuge de classe. En fait, tu es dans une niche de littérature française de transfuge de classe sans même t'en apercevoir.
Un nouveau genre littéraire.
Oui, mais là, on y revient peut-être, mais c'est vrai que ça a un rapport avec tes idées... politique peut-être, ça a un rapport avec une histoire scandinave. Je pense que le transfuge de classe c'est quelque chose d'important. On a eu Édouard Louis en Norvège, il est venu, c'est devenu
un phénomène.
Presque un Norvégien, non, il est venu en Norvège 7 fois. Ça veut dire que déjà c'est quelque chose de très spécial. Les 2 premiers livres ont aussi été mis en scène au théâtre à Oslo. Mais il y a en Scandinavie, peut-être encore plus fort en Suède qu'en Norvège, toujours eu ce débat sur le transfuge de classe. Il y a aussi historiquement eu cette histoire de littérature prolétarienne. Il y a eu, et tout ça s'est passé à travers les années 30, 40, 50, et puis dans les années 70, c'est revenu avec l'extrême gauche qui voulait écrire des romans prolétaires, ou alors pour le prolétariat, ça dépend. Et donc, quand on a lu Édouard Louis la première fois, ça touchait aussi quelque chose en Norvège. Et je crois que Édouard Louis, quand il est venu la première fois, a aussi senti très fort que quand il venait en Norvège, c'est ça qui intéressait. C'était pas l'homosexualité. Il disait que quand il allait en Espagne ou en Amérique latine, on parlait d'homosexualité. Quand il est venu en Norvège, on a parlé de ça tout de suite.
Alors, pour nos auditeurs, je vais rappeler en quelques secondes que Édouard Louis est ce jeune auteur qui a fait sensation avec ce premier roman qui s'intitulait Pour en finir avec Eddie Bellegueule, qui en fait était son vrai nom, où il racontait comment il avait grandi dans le Nord, dans une famille assez pauvre, assez miséreuse, et que faire des études, venir à Paris, devenir intellectuel, ça avait été effectivement un arrachement, et puis c'est l'histoire un peu d'un deuil, et que son troisième livre, Qui a tué mon père, est aussi un livre très politique, un livre qui s'interroge et qui d'ailleurs prend à partie la classe politique à cause de son père qui est mort pour différentes raisons et sans doute liées à des décisions sociales, à des décisions sur la loi du travail. Et il se trouve que ce livre, d'une certaine façon, il est né en Norvège, d'après ce que j'ai compris, puisque Édouard Louis, en effet, lors d'un de ses nombreux voyages, invité à la maison d'Oslo, on lui avait demandé d'écrire un texte, et cet embryon de texte qu'il avait lu est devenu Qui a tué mon père. Est-ce que vous confirmez?
C'était pour les 10 ans de la maison de la littérature à Oslo qu'on lui avait demandé de faire un texte. Et le papa, il vit.
Il est encore vivant.
Il est encore vivant. Il est absolument vivant, mais il est peut-être plus mort que vif dans le sens où on l'a tué dans toute sa vie. Je veux dire, symboliquement, un travail à l'usine où son dos a été brisé, etc., etc. Cette violence qui n'est pas directe, mais indirecte par rapport à une vie est très intéressante. Mais ça a eu un grand intérêt en Norvège. Et il faut dire aussi que ça a créé d'énormes débats en Norvège. Parce que nous avons eu un de nos grands classiques modernes, quoi, il vit encore, Kjartan Fløgstad, auteur de gauche, qui a vraiment attaqué Édouard Louis très très fort dès le premier roman, parce qu'il attaquait sa propre famille. Un débat qui a eu, je crois, aussi en France. Mais alors, les jeunes en Norvège, de gauche, d'extrême gauche, et tous les autres minorités se sont rassemblés contre. Et ce débat était dans plusieurs journaux norvégiens pendant très longtemps.
Et vous, Alice Zeniter, venir ici, dans ce pays que vous ne connaissiez pas, dont vous ne parlez pas la langue, mais à la rencontre de personnes qui ont un intérêt pour la littérature française et celle à laquelle vous participez, est-ce que ça change quelque chose en vous? Est-ce que ça vous donne des envies d'écriture différentes? Est-ce que ça bouge un tout petit peu les lignes?
Je crois qu'il y a quelque chose qui est profondément bouleversant dans la possibilité de faire ça, mais si j'avais lu plus de littérature norvégienne, la Norvège existerait pour moi, parce que les livres l'auraient rendue présente. Ce qui voudrait dire que, quand bien même j'y aurais jamais mis un pied, il y aurait une sorte de part de mon cerveau qui aurait inclus la Norvège sur la carte, et de temps en temps je pourrais me dire, oui tiens, en Norvège, penser à des personnages comme à des personnes existantes, avoir un certain nombre de projections. Ça n'est pas le cas, mais là, par la littérature, finalement, ce pays où je suis donc là pour la deuxième fois en 3 mois, ce qui fait que, par exemple, voilà, j'étais à Oslo hier, je commence déjà à avoir mes habitudes. J'ai un attachement immense pour l'Opéra d'Oslo. Je pense que c'est une des plus belles réussites d'architecture contemporaine qui existe. C'est magnifique, on dirait un bloc de glace qui est en train de se fondre dans le fjord. C'est une architecture qui est ouverte, on peut l'escalader de partout. En fait, l'opéra appartient à tout le monde. C'est aussi quelque chose qui politiquement est absolument dingue. Je pense que pour ne pas créer des classifications de tel art appartient à telle classe sociale, ce bâtiment est absolument magnifique. Et donc tout à coup, parce que mon livre, ma traduction, le fait qu'Asbjørn m'ait publié, ça fait que la Norvège existe. Et le monde est plus grand de ça. Et c'est follement excitant. Du coup, moi, j'ai le cerveau qui carbure un peu à 100 000 de cette ouverture du monde qui se crée grâce aux traductions et aux voyages autour de l'art de perdre.
C'est une belle conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez, Asbjørn?
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je me souviens encore une fois, j'étais assis une fois à Beyrouth, et j'avais fini le livre que je lisais, et j'ai pris un nouveau livre dans mon sac, et d'habitude, je lis des livres du pays où je voyage. Et j'ouvre mon livre, et je descendais la rue Hamra. Et je me dis, je suis assis dans la rue Hamra. Et le fait de commencer à reconnaître les endroits quand on voyage, à travers la littérature souvent, ça, j'adore ça aussi, et c'est vrai que la littérature nous fait voyager aussi.
Eh bien, merci à vous deux pour ce beau voyage ici à travers les livres en Norvège, à Lillehammer, où se tient donc jusqu'à dimanche ce festival de littérature qui accueille la France comme invité d'honneur et qui, j'espère, donnera lieu à de nouvelles rencontres, à de nouveaux échanges et qui sait, de nouvelles traductions.
Mais on est en train de traduire Joseph Pontus, Hervé Lecor. Bien sûr qu'il y aura de nouvelles traductions.
Oui, mais là, vous parlez d'auteurs qui ne sont pas présents.
Bien sûr, toujours. Mais j'espère aussi qu'on va pouvoir continuer certains des auteurs qu'on a déjà publiés, bien sûr.
Merci à vous deux. Merci à Alice Zeniter et merci Asbjørn.
Øveros.
Et comment est-ce qu'on dit au revoir en norvégien?
On pourrait dire au revoir på gjensyn, mais ça, c'est très archaïque. C'est beau. Ça veut dire qu'on va se revoir, mais sinon on dit harde.
Tusen takk.
Ça veut dire quoi?
Mille merci.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur rfi.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.